on a envoyé des stéroïdes à l'intelligence artificielle traditionnelle, on va dire.
Avec l'IA générative, on se parle d'une capacité de réutilisation plutôt autour de 90%.
Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous recevoir pour un nouvel épisode de notre podcast Questions d'innovation proposé par IBM. Nous allons découvrir comment IBM et la société Artefact ont travaillé ensemble pour mettre au point un projet vraiment innovant qui fait appel à l'intelligence artificielle générative. Alors, commençons par vous, Thomas. Pouvez-vous vous présenter et nous décrire votre parcours ?
Je m'appelle Thomas Donien. Ma fonction, mon rôle chez IBM, c'est d'être le market leader vente des solutions IA que IBM a dans son portefeuille de produits. J'ai une formation d'ingénieur et l'IA, c'est un aboutissement depuis à peu près les années 2000.
Et vous, Jérémy ?
Alors, je m'appelle Jérémy Kornevukovic. Je suis senior manager chez Artefact. Ce qui m'a amené à m'orienter vers ces sujets d'intelligence artificielle, c'est un parcours absolument différent du profil classique de l'ingénieur. J'ai commencé mes études autour du droit et des sciences politiques. Je suis rentré dans ces sujets-là et ensuite j'ai pu évoluer donc Accenture, IBM, Deloitte et ensuite Artefact. C'est vraiment notre cœur de métier de travailler ces sujets data et principalement l'intelligence artificielle. Et pour le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, j'imagine, l'intelligence artificielle générative.
Alors justement, on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative. Le grand public a pu y prendre goût rapidement grâce à ChatGPT, notamment pour le texte, et DALL-E ou Midjourney pour l'image. Quelles sont selon vous les différences entre un usage particulier, grand public, et un usage professionnel en entreprise ?
Alors, il y en a beaucoup, et surtout, il y a une grosse porosité entre les deux. Quasiment toutes les personnes qui sont dans ces grandes entreprises qui vont ensuite soit l'appliquer dans les équipes data ou l'utiliser dans les équipes métiers, sont également utilisatrices dans leur vie personnelle de ChatGPT ou en tout cas ont touché l'outil. Et donc, ça a créé une adoption extrêmement rapide. Beaucoup de nos clients et d'entreprises ont eu le petit défaut de ne pas l'encadrer suffisamment vite. Il y a eu des fuites de données, des utilisateurs qui mettaient des données confidentielles ou des données de l'entreprise dans des accès B2C, donc à ChatGPT. Le deuxième gros challenge, c'est le challenge technique. Une fois qu'on s'est dit ça, comment est-ce qu'on fait en sorte que l'intelligence artificielle soit au cœur de l'entreprise sans prendre de risques. Et c'est une chose qui est assez difficile à faire accepter au métier, qu'on ne peut pas avoir ChatGPT demain en entreprise. Il faut passer par tout un ensemble de silos de sécurisation qui nous permettent ensuite de libérer toute la puissance.
Thomas, quelles sont les contraintes que doit prendre en compte une entreprise dans son usage de l'IA générative ?
Les contraintes pour l'entreprise, c'est est-ce que ce qu'il génère est juste ? Première question. Deuxième question, de quel service plus précisément ai-je besoin ? Est-ce que c'est de l'interactivité entre mes employés et la machine ? Est-ce que c'est de l'interactivité entre mes clients et la machine ? Ou alors, est-ce que c'est des automates ? Toute cette dimension-là, on ne l'a pas dans le grand public. La problématique grand public, à la limite, c'est une problématique d'interrogation, question-réponse. Mais de l'autre côté, l'entreprise, elle doit être sécurisée, si j'ose dire, dans cet environnement, tout en ayant quelque chose de pertinent.
Jérémy, pour entrer dans le concret, vous avez un projet construit sur la plateforme WatsonX qui illustre parfaitement l'intérêt que l'IA générative peut avoir pour l'entreprise.
Absolument. Alors, déjà, première bonne nouvelle, c'est que c'est en train d'être développé au sein de l'entreprise. Mais je vais vous en parler et essayer de vous donner le plus de détails possible. Là pour se projeter, on est dans l'univers des banques et des banques de détail. Le challenge qui nous a été posé avec l'IA générative, c'est comment construire des produits data qui deviendraient des services au sein de ces clients B2B des banques. La grosse difficulté, c'est que si je suis une banque et que j'ai plein de données, mais comment est-ce que je les partage pour respecter à la fois mes utilisateurs, donc c'est-à-dire mes clients, et en même temps donner de la valeur à mes partenaires B2B. J'ai deux types de clients et je vais donner l'information de mes clients B2C à mes clients B2B sans prendre de risques et sans dénaturer la confiance. Jusqu'à l'IA générative, il y avait deux façons de le faire. Soit je le faisais en bulk, je partageais des gros lots de données, mais qui n'étaient pas du tout valorisables parce que trop anonymisés, impossible à réconcilier, aucun intérêt, en tout cas très peu.
Oui, c'est ça. L'anonymisation des données entraîne une perte d'information.
Absolument, absolument. Alors, ça doit toujours être anonymisé, bien sûr, mais on a trouvé des moyens. Alors, première chose, c'est ça. Deuxième approche, contrainte aussi, c'est ce qu'on appelle via des data clean rooms, c'est-à-dire qu'on partage avec un autre acteur, uniquement un autre acteur, des données. Mais quand on a 200, 300, 400 000 clients partagés à un seul acteur, c'est difficile. Il faudrait 400 000 data clean rooms, ça serait très compliqué. Donc là, on en était là à ce niveau de la réflexion avant l'IA générative.
Eh oui, parce que ce principe de collecte et d'analyse massive est courant. Qu'est-ce qu'apporte spécifiquement l'IA générative ?
Il se trouve qu'il y a quelque chose, une avancée de l'IA, et d'ailleurs ça va très vite, comme vous disiez, qui est cette IA générative, qui apporte des fonctionnalités décuplées. En gros, on a envoyé des stéroïdes à l'intelligence artificielle traditionnelle, on va dire. Mais dans le pilote d'artefact, il y avait une dimension d'intelligence artificielle classique. Ils ont, en préalable, réaliser une segmentation client. Et la segmentation client, c'est quelque chose qui existe depuis plein d'années. L'IA classique est un peu plus lente, entre guillemets, à implémenter et donne un service. L'IA générative, lui, là, a répondu à la production d'une image, a répondu à la synthèse du profil, éventuellement à des zooms par sujet clé pour ce profil, et a généré en fait du texte qui me permet d'éviter d'aller lire des tableaux et de corréler des éléments entre eux, qui corrélation, tâche de corrélation qui est complexe. Là, l'IA générative l'a parfaitement bien fait.
Et alors, la chance qu'on a eue, c'est que quand cette mission a commencé, l'IA générative, c'était quand même déjà bien développé. Et la solution qu'on a trouvée, c'est construire en temps réel sur une sorte, sur une plateforme, la possibilité de fournir des personas adaptés à votre secteur d'activité. Donc, imaginons que vous avez 400 000 clients, vous êtes une banque, vous avez de l'automobile, vous avez des meubles, vous avez de l'alimentaire, etc. Vous pouvez dire, ça, c'est mon industrie. Donne-moi des profils pertinents parmi les, je dis une bêtise, mais les 15 millions de clients de la banque qui pourraient être pertinents pour mon industrie. Et donc, c'est l'approche un peu classique de faire juste du clustering et des personas comme on faisait à l'époque de l'IA classique, mais qui mettait peut-être deux mois à faire quelque chose de solide. Là, on a, grâce à l'IA générative, des clusters qui sont faits en intelligence artificielle, mais des personas construits en IA générative en une quinzaine de secondes. Et donc, ça permet d'avoir en self-service la possibilité de venir puiser des données pour activer des campagnes marketing sur des prospects en se disant, voilà, je fais des personas en temps réel sur une quinzaine de millions de données, enfin de clients avec autant de données afférentes, on arrive à collecter et je le fournis.
Alors, cela vous permet aussi de proposer des fonctionnalités vraiment innovantes, comme le fait de pouvoir discuter avec un persona créé par l'IA générative.
On a la possibilité d'avoir un persona classique, mais sauf que c'est dynamique. Quand je peux lui poser des questions, j'aimerais lancer ce type de produit, enfin ce type de sandwich ou ce type de chaise, etc. Est-ce que le pricer à ce niveau-là, ce serait la bonne approche, ou est-ce que ce serait mieux de vous proposer à vous, via des campagnes Instagram, plutôt un fauteuil en velours vert qu'une chaise rouge en cuir? Le champ des possibles est infini, mais on a la possibilité donc d'itérer avec ces personas sur la meilleure stratégie commerciale de l'entreprise.
Finalement, le projet passe en langage naturel, accessible à des gens de marketing, non techniciens, des informations habituellement représentées par des statistiques, ce qui permet de se figurer de manière plus créative ses clients et leurs besoins, c'est ça ?
Absolument, absolument. Si je reprends un petit peu de hauteur, les grandes étapes, hein, quand on fait des personas, ou en tout cas quand on fait cet exercice marketing, c'est de se dire, je prends un pool de données. Donc là, en l'occurrence, dizaines de millions de personnes qui vont ensuite me donner des informations sur elles à hauteur de 3, 4, 500 types d'informations. Donc, par exemple, le panier moyen, par exemple, ce qui est acheté, par exemple, les heures de connexion. Et la première étape, c'est de faire une segmentation. Donc là, il n'y a pas d'IA derrière, c'est de dire, je prends dans cette base de données que ce qui m'intéresse. Une fois que j'ai ma base de données qui est un peu restreinte, je fais du clustering, c'est-à-dire je groupe en termes de poche de population ces individus. Une fois qu'on a ça, ce qui ressort de ce modèle-là, c'est des tables de données qui nous disent voilà, les personnes sont regroupées avec tel volume, tel pourcentage. Le travail en général des équipes marketing, c'est de transformer ces données chiffrées en persona, donc en sorte de fiche client. Et ça, c'est ce que remplace l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire qu'elle va produire, comme vous le disiez, en langage plus facile à lire, plus familier, un ensemble d'informations. Par exemple, cette personne-là a tendance à acheter en ligne 30% de plus que les autres clusters et on met les pourcentages afférents, comme ça on donne de l'explicabilité à l'IA générative. Quelque chose qui est souvent opposé à l'IA générative, c'est sa dimension black box, le manque d'explicabilité. la façon dont on résout ce sujet-là, parce que c'est critique pour les entreprises de comprendre, enfin, s'ils prennent une décision commerciale et qu'ils engagent 50 millions de campagnes marketing sur des informations fausses, on a un problème. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'explicabilité via les pourcentages des clusters. On dit, ce type de population, dans le passé, ils ont acheté 30% plus en ligne que ce type de population. Ensuite, libre à vous de prendre les conclusions que vous voulez, mais c'est l'information d'explicabilité qu'on fournit.
Est-ce qu'on peut dire finalement que la couche générative de texte produite par l'IA ajoute à ces données quantitatives une couche qualitative ?
Absolument, absolument. Et même, j'irais plus loin, c'est dans les deux sens. On donne à des données de cluster qui sont en général assez froides, à des données de table, cette couche générative de texte. Mais également, là où les personas marketing pouvaient être souvent un petit peu fatigués en se disant « oui, alors là, c'est gentil, mais c'est du marketing, c'est un peu une... on a un peu itéré un peu trop loin », tout ce qui est avancé par l'IA générative en termes de texte, c'est adossé à une dimension quantifiée, à une dimension chiffrée. Donc en fait, on rejoint un peu le meilleur des deux mondes en donnant de la qualité textuelle, mais également de la source chiffrée.
Alors, puisqu'on a ces personas inventés par l'IA générative, est-ce qu'on pourrait imaginer aller plus loin et créer des messages publicitaires à la volée à destination des clients ? Ou est-ce que c'est encore de la science-fiction ?
Alors, ça paraît de la science-fiction, mais on le fait déjà. On le fait déjà, et dans ce cas d'usage, c'est effectivement la dernière brique du projet. En fait, ce qu'on fait pour aider un petit peu le métier, les personnes qui seraient un peu moins entraînées en prompt engineering, on encadre quelques parties du prompt. C'est-à-dire qu'on va dire le réseau social sur lequel on va échanger. Ensuite, deuxième brique, on va sélectionner le type de produit qu'on va vouloir promouvoir. Et ensuite, on fait un mini brief de plan marketing. En gros, je veux que tu me fasses ressortir le message clé, le corps de texte, quelques informations spécifiques sur le produit et que tu me mettes ça de manière concise. Parce qu'imaginons qu'il le fera automatiquement si c'est sur du X par exemple ou sur certains formats, mais il peut le faire. Et ensuite, quand on demande à l'outil donc, de proposer ce contenu, il va le faire pour chacun des personas. Ce qui est assez intéressant à regarder, c'est qu'on voit vraiment que d'un persona à l'autre, il y a des messages marketing complètement différents. Et quand on creuse dans les données, on se rend compte que c'est assez cohérent que ce message-là arrive à cette personne-là plutôt qu'à cette personne-là, parce que cette personne, par exemple, achète plutôt en lot plein de une fois par an, ou achète plutôt un peu tout au fil de l'année, ou alors achète plutôt des produits moins chers que des produits plus chers, achète plutôt dans plusieurs types de boutiques différentes. On arrive à récupérer énormément d'informations qui vont faire du sur-mesure sur le message marketing. On peut comprendre que quand on a 3-4 messages marketing à envoyer, ça peut se faire à la main, mais si on veut faire de l'hyper-personnalisation sur une cinquantaine, une centaine de clusters différents, c'est un pouvoir qui est absolument décuplé.
Pour être exhaustif, évoquons aussi les limites de ces IA génératives, notamment avec les problématiques d'hallucination. Thomas, quel garde-fou peut-on imaginer pour s'en préserver ?
Alors, j'aime beaucoup cette question parce que vous n'avez pas dit un modèle ou un service, mais des IA. Parce que c'est vraiment ça. Imaginez une entreprise avec un centre de production, éventuellement de services d'IA, qui vont faire impacter peut-être les 40 métiers clés de l'entreprise. Là, on commence à rentrer dans une complexité, parce que vous imaginez bien qu'un modèle, il va vivre sa vie aussi. Si une IA donne des choses éthiquement non recevables, si une IA donne des choses en déviance d'une certaine manière ou en hallucination, c'est-à-dire mauvaise information pour d'autres, à partir de là, l'image peut être impactée. Donc, comment est-ce qu'on s'en prémunit ? Et c'est là où j'arrive à votre question. On s'en prémunit en mettant quelque chose qui s'appelle la gouvernance des risques liés au modèle d'IA. On parle de quelque chose qui est au niveau de la direction générale. On arrive sur ce qu'on appelle du pilotage de risque. Sans gouvernance, demain, il n'y aura pas d'IA. Et il n'y aura pas de déploiement de l'IA dans l'entreprise.
En ce qui concerne les hallucinations, c'est-à-dire quand l'IA invente littéralement des faits, quels sont les moyens d'y faire face, Jérémy ?
L'hallucination, elle est problématique quand elle va toucher une partie clé du business. C'est-à-dire quand je vais devoir prendre une décision sur cette hallucination. Mais je me fiche qu'il y ait une hallucination, en tout cas, absolument pas d'hallucination quand on me propose du contenu créatif. Par exemple, sur des campagnes de potentiel de marketing, si on met une phrase un peu alambiquée, mais qui est intéressante, on n'a pas de sujet d'hallucination. Par contre, quand je veux savoir que ce cluster s'est comporté de cette manière-là, je ne peux pas me permettre d'avoir une hallucination parce que ça va être critique pour mon business. C'est là qu'on met en place un ensemble de données chiffrées qui viennent des clusters eux-mêmes et donc qui dit X profil est plutôt digital native et a tendance à consommer en ligne. On veut dire aller à 70% plus consommatrice de produits en ligne que le reste des clusters. Donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'elle était digitale, plus digitale native, qu'elle est jeune également. Donc, on va lui faire plutôt des pushes commerciales.
On critique aussi beaucoup les biais potentiels liés à cette technologie, notamment lors de la conception des modèles. Qu'en pensez-vous et comment les identifier et les atténuer ?
Les biais, ils sont en entrée et en sortie. Il faut être attentif. Donc, c'est le travail à la fois du data scientist, du profil un peu plus business analyst, mais également le travail du business owner. En fait, c'est dans un cas d'usage classique, c'est les trois grands types d'individus qui travaillent à ça. Et donc, dans la partie biais, dans l'entrée des données, là, effectivement, il y a un travail conjoint à ce moment-là pour se dire, attention, dans ce qu'on rentre dans le modèle, ça peut être peut-être des biais éthiques, ça peut être des biais aussi de significance. Est-ce que, par exemple, on met suffisamment de représentativité d'un type de population avant d'itérer ? Donc ça, c'est un peu une réflexion qui se fait en amont. Et ensuite, le deuxième type de réflexion, c'est en aval. C'est une analyse des résultats du modèle et surtout d'un ensemble de tests qui doivent être faits. Et bien sûr, les tests de performance pour voir si ça fonctionne bien, si ça crée la valeur qu'on espérait, mais également s'il y a une cohérence dans la façon dont c'est utilisé. Et en plus de ça, on peut s'adosser à des outils qui vont considérer que les zones de brèche, en se disant attention, dans le modèle, à cet endroit-là, on est en porte-à-faux par rapport à une suffisante volumétrie ou par rapport à une surexposition du modèle à certains paramètres. Et donc voilà, on évite d'avoir des biais.
Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du temps nécessaire à la réalisation d'un tel projet ?
Le fait de le faire en chambre, comme on l'a fait pour la démo que vous voyez là, on se parle d'un mois, bout en bout, avec des jeux de données qui sont des jeux de données qui sont extrêmement propres, parce que c'est des jeux de données de synthèse. On a pris les mêmes dimensions, mais on avait des jeux de données de synthèse parce qu'on n'avait pas utilisé des données confidentielles.
Donc, on peut imaginer qu'en un mois, on a un projet minimum viable ?
Exactement, même moins, mais si vos données sont propres pour un POC, c'est absolument faisable. Par contre, ce qui prend du temps chez nos clients, c'est trois choses. Un, le fait d'avoir des données propres, structurées, idéalement dans une data platform. Donc ça, c'est une première grosse difficulté technique. Deuxièmement, c'est de définir l'ensemble du cadre légal de l'IA générative. C'est un vrai sujet également, hein, de dire quel LLM on utilise, quel type de sécurité on a affaire à ça. Donc, comme c'est nouveau, mais il y a duré, ça prend pas mal de temps. Et la troisième chose, c'est la même chose, c'est la dimension technique. Réaliser à la fois le POC, mais aussi préparer une industrialisation, donner suffisamment de capacité de calcul pour ensuite l'ouvrir à l'entreprise. Donc là, de manière un peu plus réaliste, on se parle plus de 3 mois à 4 mois. Si on veut avoir quelque chose de robuste et qui puisse avancer.
Si on veut modifier ou enrichir le projet, qui fait appel à des technologies très évoluées, est-ce que les choses ne deviennent pas trop complexes ?
Non. L'avantage de l'IA générative, c'est que 90% du modèle est déjà fait. Je vous donne un exemple d'une autre industrie, par exemple du luxe. On est dans une approche de holding et souvent, on veut passer un cas d'usage à l'autre. Quand on se parlait d'un cas d'usage de forecasting ou d'un cas d'usage d'optimisation, etc., on pouvait réutiliser 20 à 30% du modèle. Avec l'IA générative, on se parle d'une capacité de réutilisation plutôt autour de 90%.
Thomas, pour conclure, comment IBM détermine si un use case relève de l'IA générative ?
La clé pour savoir effectivement si le use case est de valeur, nous, on a effectivement dans la méthodologie agile cette capacité à mettre en place, si j'ose dire, un moment d'idéation avec le client qui a fait une présélection potentielle de son côté des domaines qu'il souhaiterait adresser avec l'intelligence artificielle, éventuellement décliné dans des use cases qui lui paraissent pertinents, et de l'autre côté, confronté avec le partenaire, Artefact en l'occurrence, si je prends cet exemple-là, et le client engineering, qui challenge, qui propose d'autres choses. Et cette séance d'idéation, en fait, s'articule, un, sur la faisabilité, deux, sur la pertinence, trois, sur les moyens, et surtout quatre, sur le retour sur investissement. Et effectivement, ce pilote qui va être monté en 1, 2, 3 semaines, eh bien, doit avoir une valeur de retour sur investissement fort dans l'entreprise et partagée par l'entreprise.
Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir accepté de partager votre expérience autour d'un projet d'IA générative. Sachez que nous allons poursuivre notre exploration des mille et une facettes de l'innovation et je vous invite donc à vous abonner à ce podcast dès maintenant pour ne rien manquer. À bientôt donc pour un futur épisode de notre podcast « Questions d'innovation » par IBM.